chers amis de Radio Courtoisie, bonsoir. Au micro, l'abbé Alain Laurence, qui a la joie de vous souhaiter, puisque nous sommes encore dans l'octave de Noël, eh bien, une sainte fête de Noël. Entre ces 8 jours, nous pouvons considérer que c'est Noël qui se prolonge, liturgiquement, spirituellement. Et puis, en anticipant un peu, je vous souhaite une bonne et sainte année. Et selon la formule que j'aime à employer chaque année, je vous souhaite, comme au Moyen-Âge, bon an, mal an, Dieu soit séant. C'est-à-dire, quelles que soient les épreuves, les joies, les croix, eh bien, que Dieu soit toujours présent. J'aurai l'honneur et le bonheur de recevoir ce soir, tout d'abord Fabienne Monclar, qui est rédactrice en chef de la lettre Mission, et qui nous parlera aussi de cette association, et Winfried Würmeling, secrétaire général de Costa UNEC, et qui nous parlera du prochain pèlerinage qu'il organise en Allemagne, mais un peu avant, le traditionnel pèlerinage d'Argenteuil, pour la Sainte Tunique qui se trouve là, dans l'église d'Argenteuil. Tout d'abord, je me tourne vers Fabienne Monclar. Bonsoir, madame.
Bonsoir, monsieur l'abbé.
Donc, Mission a reçu, en partenariat avec Winfried Würmeling, c'est-à-dire l'UNEC Costa, dans une... c'était un dîner-débat, on peut le dire. Vous l'avez reçu, un ancien pasteur qui est un jeune prêtre, si j'ose dire maintenant.
Des jeunes prêtres, parce qu'il faut bien savoir que si l'Église catholique, maintenant, se protestantise petit à petit, il faut bien l'avouer, même si nos évêques ne le disent pas, mais enfin. Et il y a quand même une chose absolument extraordinaire qui se passe dans les pays de l'Est. C'est absolument fabuleux. Il faut bien que tout le monde en prenne conscience. C'est que nos missionnaires, les missionnaires de la fraternité, sont en train d'accomplir un petit peu, enfin c'est le cœur immaculé de Marie qui, à travers eux, accomplit un peu le miracle de Cana. Il y a des pasteurs qui sont en train de se faire prêtres grâce à eux et qui vont changer le vin en sang du Christ et le pain en corps du Christ, ce qui est absolument extraordinaire. Alors, bon, on a créé cette association Mission pour les aider, parce que bon, des miracles pareils, il n'y en a pas tous les jours, et de moins en moins. Et avec la fraternité, il y en a de plus en plus. En fait, il faut l'admettre.
C'est très bien. Alors, dites-nous un petit peu plus, Winfried, sur ce jeune prêtre. Alors, c'est un jeune prêtre, jeune, parce qu'il est prêtre depuis quelques temps, quelques années seulement, mais en réalité, il a un certain âge. Donc, il s'agit du père Sten Sandmark, l'abbé Sten Sandmark, qui était autrefois pasteur luthérien.
Voilà. Jeune prêtre dans la tradition, mais ancien pasteur chez les luthériens. Il était 32 ans pasteur luthérien quand on l'a trouvé en Suède. C'était déjà il y a 7 ans maintenant, pour notre pèlerinage de l'UNEC, ça s'appelait pèlerinage en Suède catholique. Il n'y avait pas de catholique, mais ils sont devenus catholiques. Donc c'était donc vraiment providentiel. Ils nous avaient invités une semaine avant le départ de notre pèlerinage. Est-ce que vous pouvez venir chez moi et faire une messe en latin, le plus latin possible? Je dis, alors vous tombez bien là, c'est chez nous tout est latin. Et c'était donc une messe dans l'église luthérienne avec l'abbé Peignot, la fraternité Saint-Pédis. Et lui, il a assisté avec une joie indescriptible, parce que pendant tout le canon, il a mis le front par terre, voyez, dans sa propre église, curé de sa propre église, d'ailleurs avec plusieurs fidèles. Et ensuite, enfin, ça s'est acheminé, et un an plus tard, il a fait l'acte décisif, hein, lors de la fameuse abjuration.
Exactement, à Saint-Nicolas du Chardonnay.
Voilà.
Ça.
Et depuis, bon, ensuite, il a fait comme tous les séminaristes. Il s'est assis pendant 4 ans même à Salzkofen sur le banc des élèves pour apprendre la théologie, la philosophie catholique, pour se préparer à la prêtrise catholique. Et il est devenu prêtre. Mais c'était quand même un parcours extrêmement dur parce qu'il avait 2 infarctus. Il avait un accident très grave avec pratiquement le visage déformé qu'il fallait opérer pendant des heures. Tout le nez était complètement déformé, etc. Et lui, il a dit, oh, c'est le diable, c'est rien, ça, c'est normal, je m'y attendais. Vous voyez, il a une patience incroyable. Il est cool, vraiment.
Sûrement pas Radio Courtoisie, peut-être tout à fait serein, mais sûrement pas ce que vous venez de dire. Ça vous coûte déjà 2 euros, merci.
Ah oui, je comprends. Je le fais payer, lui.
Et alors, il a quel âge exactement, la bestiaine?
Il doit avoir maintenant 65 ans, ouais, à peu près 65, oui. Contre le vent, non, c'est un petit ermitage où il dit la Sainte Messe de toujours, tous les jours, en plein milieu de cette mer luthérienne, 99% luthérienne, qui est la Suède.
Et qui était le pays de Sainte Brigitte.
Ah.
Avant Luther, il y a eu Sainte Brigitte.
Ah oui, Sainte Brigitte et la Vierge Marie, qui aujourd'hui encore est très vénérée, même dans les églises luthériennes. Mm-hmm. Il fait toujours deux points de ça. Il dit, nous, on n'a jamais changé. On a le banc de communion, on a le petit coin pour le vin et l'eau. On a le calice, exactement. C'est vrai, ça fait... D'ailleurs, versus Deum, hein, c'est pas vers le peuple, etc. Il a dit, c'est une histoire de prince et d'argent en haut. Nous, on n'a jamais changé. Nous, on est resté catholique.
Dans le compte-rendu que vous faites, vous dites quand même, reprenant les propos de l'abbé Stein, que la situation quand même chez les luthériens est assez catastrophique, puisqu'on a des femmes évêques, des pasteurs et même des...
Et puis on prévoit d'ordonner des homosexuels, voilà. Et puis pourquoi pas, et puis bon, bah, allons-y. De toute façon, à partir du moment où Luther a commencé à changer les règles, et ben on peut changer tout. Donc effectivement, ça commence à affoler un petit peu les populations. Parce que vous avez tous appris sur les bancs d'école, en lisant Michelet, que les catholiques étaient des gens épouvantables pendant les guerres de religion, qu'ils ont massacré les protestants. C'était des gens infernaux, les catholiques. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que en France, chez les catholiques, tout le monde avait le droit de choisir sa religion. D'ailleurs, sinon, Henri IV n'aurait pas changé 13 fois de religion. C'est pour ça qu'il était si tolérant. Dans tous les pays protestants, les principautés du Nord et en Allemagne, le roi ou le prince a changé de religion, est devenu protestant, et puis il a obligé son peuple à devenir protestant. Il n'avait pas le choix. Donc c'est comme ça qu'on fait l'histoire, mais bon, bah, c'était pas tout à fait ça en catholique. Les catholiques ont toujours été assez tolérants, mais quand les protestants voulaient, ils se sont mis à se battre. Quand ils ont vu ce qui se passait dans les pays du Nord, ils ont voulu faire pareil. Ils ont trouvé que ça n'allait pas assez vite. Et c'est comme ça que les guerres de religion ont commencé.
Alors, pour en finir un petit peu avec cette rencontre, comment se fait-il donc que ce jeune prêtre catholique se trouve dans une conférence-débat à Paris il y a quelques semaines? Qu'est-ce qui l'a amené en France?
Oui. Oh, c'était Lourdes. Il est venu là pour la troisième fois à Lourdes.
Il a fait le pèlerinage de Lourdes,
voilà,
et il s'est arrêté à Paris.
Il fait une petite station à Paris. Et donc là, on l'accompagne, etc. Et j'ai pensé, c'est le meilleur moment pour avoir une date fixe, parce que Lourdes, c'est fixe. Hein. Oui. Et donc, au retour, on pouvait vraiment fixer ce rendez-vous. C'était très bon. Mais il nous a toujours de nouveau étonnés de la profondeur de sa vocation. C'est vraiment un prêtre absolument étonnant. Hein. Marial, à un point... je vous avais dit une fois, je crois que c'était notre interview. Il avait
notre
dit
entretien,
pour moi,
je
la messe, c'est un acte totalement marial. Parce que c'est elle qui a dit la première fiat. Et par ce mot, sa chair, sa propre chair, est devenue Jésus-Christ. Alors, une telle pensée, oui. C'est quelque chose.
Moi, j'avais eu justement vraiment l'honneur de l'interroger juste avant qu'il ne prononce cette abjuration à Saint-Nicolas. Et il disait justement, avant même d'être catholique, il avait cette dévotion mariale. Et puis il lisait les grands mystiques. Enfin, il lisait Sainte-Thérèse, il lisait Saint-Jean de la Croix. C'était donc quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup médité.
Et il dit, c'est elle qui me mène. Et une fois, il m'a avoué, j'ai dit, quelle est votre philosophie? Et il m'a dit trois points, je me rappelle bien. La première... est toujours gentil, même avec les ennemis. Ça sert à rien de se mettre en colère. Ça sert à rien. Donc, même avec les ennemis, être gentil, accueillant. Deuxième chose, chercher toujours la vérité. Ah, ça, c'est contraignant parce que ça lui a fait changer toute sa vie. Hein? Chercher toujours la vérité. Et troisièmement, se confier totalement à la Vierge Marie.
Voilà, oui, bien sûr. Fabienne Monclar, vous disiez que mission avait pour but justement d'aider, de soutenir ces prêtres. Est-ce que concrètement, si un auditeur qui serait lui aussi en train de chercher la foi catholique pourrait passer par votre association pour joindre ce prêtre? Est-ce qu'il y a moyen de servir un petit peu d'intermédiaire? Ou est-ce que d'autres personnes qui voudraient aussi soutenir, peut-être en lui demandant une intention de prière, ou peut-être en lui faisant une offrande pour qu'il dise des messes, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça fait partie de...
Bien entendu, de toute façon, c'est un grand moyen pour aider les missionnaires, c'est leur demander de dire des messes. Alors, c'est un double profit hein, pour chacun, donc on ne perd rien. Et en plus, il faut de toute façon aider ces missionnaires. Les gens ne se rendent pas assez compte de tout le travail qu'ils font. Ils sont seuls, ils construisent des écoles, ils construisent des églises, mais c'est absolument fabuleux. L'abbé Stéline, il veut construire des écoles parce que c'est par les enfants que ça passe.
Alors l'abbé Stéline, lui, est près de la Trinité Saint-Pédis, Pologne.
En Pologne, voilà. Et puis, ils vont en Lituanie un petit peu dans tous ces pays de l'Est, c'est très important parce que là, ils commencent à devenir plus nombreux. Il y a quand même beaucoup de travail. Donc les gens peuvent aider effectivement en demandant des messes et bien entendu en aidant, en finançant ces églises et tout. Parce que ils font tout eux-mêmes les prêtres. Alors, on peut pas ils sont épuisés.
Quand autant, on voit les catholiques devenir protestants aujourd'hui, parfois même sans le savoir, parce qu'ils suivent une liturgie protestantisante, etc.
J'ai une amie protestante qui vit depuis quand même des années en France, puisqu'elle a épousé un Français. Et à force de voir des catholiques, un jour, elle m'a beaucoup touchée. Elle m'a dit « J'aime de plus en plus la Sainte Vierge ». Et effectivement, c'est ce qu'on demande quand on a découvert la Sainte Vierge. Après, c'est fini. On est eu. Elle nous a tous. Elle est extraordinaire. Et là, je crois que, c'est le bon moyen. Il faut passer par le cœur immaculé de Marie. Et d'ailleurs, dans mission, que ce soit l'abbé Stéline, que ce soit tous nos abbés qui sont là-bas et nos missionnaires, tout le monde s'est voué au cœur immaculé de Marie.
Alors, on va dire justement où l'on peut vous trouver, parce que ce bulletin, donc ce sont 4 pages, vous éditez à peu près tous les trimestres, tous les 2 mois
C'est à peu près tous les 2 mois, tous les 3 mois, pour être plus précis.
D'accord. Alors là, donc cette lettre trimestrielle dont vous assurez la rédaction en chef, donc on peut en avoir un exemplaire, tout simplement en écrivant au siège, j'imagine, 6 Parc de la Bérengère, B-E-R-E-N-G-E, accent grave R-E, 92 210 à Saint-Cloud. Donc je répète, mission au pluriel, 6 Parc de la Bérengère, 92 210 Saint-Cloud, et il y a aussi une adresse électronique que je donne tout de suite, mission, donc avec un S, mission pluriel, point, ASOS, A-2-S-O-C, @gmail.com, mission pluriel, point, asos, a2soc, @gmail.com. Et vous répondez, si on vous écrit.
Voilà, on répond, et puis alors on peut recevoir la lettre, évidemment, sur papier. Mais pour ceux qui sont habitués, autant qu'on leur envoie par courrier électronique, ça nous fera des économies pour envoyer un peu plus aux missionnaires. Ouais, et tant mieux pour eux. Et tant mieux pour les âmes qui vont pécher.
Ouais. Quand vous disiez, je vois que ces catholiques parfois deviennent protestants, mais que les prêtres font, eux, le chemin inverse, je crois qu'il y a effectivement un prêtre de la fraternité qui a eu à prêcher une retraite à des pasteurs protestants qui ont demandé à avoir une retraite où ils pouvaient découvrir la théologie, la spiritualité.
Et voilà, l'abbé Stéline, il enseigne les exercices de Saint Ignace aux pasteurs. Et puis bon, c'est pas la peine de faire de la publicité pour les exercices de Saint Ignace. C'est quelque chose d'extraordinaire pour un exercice de piété qui vous fait monter les marches du ciel. Hein, c'est extraordinaire. Mon père classait ses légionnaires selon les exercices de Saint-Ignace. Et Dieu sait s'il ne se trompait pas.
Et alors voilà, c'est ce qui lui a permis d'être victorieux comme ça sur les théâtres d'opération. Parce qu'il avait le sens des...
Il avait une chose, il priait toujours avant la bataille. Mmh. Il portait la médaille de la Sainte Vierge. Bon, ben, je crois que la Sainte Vierge fait les miracles qu'on lui demande. Mmh. Il suffit de les demander.
Parce qu'il faut dire que vous êtes donc la fille du héros, Monclar.
En fait, il était comme sa génération. On oublie trop que, bon, au début du XXe siècle, tout le monde était catholique. Et ils sont partis. C'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre de 14, d'ailleurs. Parce que petit à petit, bon, on a eu les deux fous, là, Staline et Hitler, qui nous ont envahis de leur propagande, leur cinquième colonne. Le pacifisme a joué à tout ça, mais autrement, les gens étaient foncièrement catholiques. Le paysan ne se met pas son blé sans appeler le curé. Mmh. Il y avait, toute la France était catholique.
Ouais. Mais alors l'Allemagne aussi, Winfried, je crois. Je vous vois avec les yeux embués.
La moitié, on est protestants.
C'est ça.
D'ailleurs, on a dépassé les protestants en nombre tout récemment. Parce qu'il se trouve que, selon les statistiques, les catholiques baptisent quand même encore plus que les protestants. Ouais. Et c'est comme ça, petit à petit, on les a quand même... Parce qu'après la réunification, c'était devenu un pays protestant, ouais. Majorité protestante. Et maintenant, c'est de nouveau majesté.
Mais avant la réforme, c'est le pays de Saint-Henri. Et puis c'est le pays, justement, là, de ce que vous allez nous dire, enfin, Trèves et Prume. Alors dites-nous, Prume, qu'est-ce qu'il y a à Prume? Qu'est-ce qui va se passer à Prume?
Il y a une magnifique chose. À Prume, le père de Charlemagne a amené la relique des sandales du Christ, inconnue en France, peut-être ailleurs aussi. Et pour moi aussi, c'était inconnu. Moi, j'habitais pourtant 40 kilomètres de là-bas. Et je les ai découverts récemment. C'est une chose fantastique. C'est le père de Charlemagne qui s'appelait Pépin III, le fils de Charles Martel, oui, bien entouré. Et lui, il avait fait l'alliance définitive avec le Vatican, si l'on veut dire, enfin l'Église de Rome, qui cherchait un nouveau protecteur face aux attaques du Sud par les musulmans, de l'Est par les Byzantins, du Nord par les Langobards. Le pape était pris en tenaille, et cherchait un nouveau allié pour le bras séculaire. Et voilà ces nouveaux rois qui se levaient dans le pays des Francs, n'est-ce pas, Charlemagne et compagnie. Et puis déjà avec lui, il avait négocié. Et Charles Martel avait promis de l'aide, mais il n'a pas fait, n'est pas allé jusqu'à Rome. Et Pépin, lui, son fils, il est parti à Rome, il a libéré le pape, c'était une de ses occupations de Rome. Et le pape était tellement heureux, et il a dit « je scelle cet nouvel accord » qui remplace l'accord pratiquement Rome-Constantinople par une nouvelle alliance. Rome, c'était pas encore Paris, je sais pas comment on appelait ça, Rome-Franc, n'est-ce pas, par la relique la plus précieuse qu'il avait sous la main, pour ainsi dire. C'était la relique avec ses propres sandales qui entouraient cette relique. Et c'est cette sandale qu'on voit aujourd'hui. Mais à l'intérieur, il y a du cuir. Et c'est ce cuir-là qu'on a pu examiner donc avec nos scientifiques français pendant les dernières 5 années.
Donc vous avez fait des recherches scientifiques sur ces reliques, un peu comme il y a eu des recherches sur le Saint-Suaire ou sur la Sainte Tunique d'Argenteuil, c'est ça.
Et là, les Allemands sont vraiment été étonnés. Ils ont dit, oui, on a un vieux truc. Bon, c'était un joli reliquaire, c'est vrai, dans la basilique, qui était une basilique de pèlerinage du Moyen-Âge. Mais après, avec Trèves à côté, etc., ça s'est un peu perdu. Hein, c'était la grande robe de Trèves qui primait. Ça, c'était aussi une petite concurrence entre les deux villes, hein, Prume et Trèves. Et puis, nous, on a examiné ça, on a tout trouvé de l'ancien. On a même trouvé du sable de Jérusalem dans le cuir. Alors, les Allemands étaient complètement étonnés. Ils croyaient presque plus leurs propres reliques. Et maintenant, c'est tout remonté. Et ça, c'est le premier congrès qu'on fait, donc, le 17 mars, après même sur cette relique, mais aussi en même temps sur les autres reliques, les saints, un peu Manopello, oui, je crois, c'est un peu le tour qu'on va faire là. Oviedo, on n'a pas eu le temps de faire, d'aller trop loin. Voilà.
Alors, on va donner tout de suite d'ailleurs les renseignements pratiques. Donc, ça a lieu sur.
Le 17 mars, oui.
C'est ça. Donc, je vois que c'est un colloque franco-allemand. Donc, il va y avoir des chercheurs français et des chercheurs allemands, n'est-ce
oui.
pas?
C'est ça. Et c'est tout un appareillage technique, hein.
Oui.
Parce que on ne veut pas de la traduction simultanée, parce qu'on ne comprend rien. Vous savez, en allemand, on dit le verbe tout de suite. Non, on dit le verbe à la fin. Et en français, on dit le verbe tout de suite. Comment une fille traductrice veut-elle dire le bon sens d'une phrase qui commence en allemand ou en France? Il faut tout de suite dire le verbe. Donc, et c'est comme ça que fonctionne Bruxelles. Et c'est pour ça que personne ne comprend rien. Et c'est pour ça qu'on a les décisions. Bon, je n'ai rien dit. Hein. Donc, nous, on veut le faire autrement. On demande tous les textes en avance, on les traduit bien dans l'autre langue, et une gentille fille va au micro pour les casques vraiment traduire avec un bon texte ce que dit l'orateur sur le podium.
Donc ça aura lieu le samedi 16 mars, n'est-ce pas?
Oui, voilà, c'est ça. Samedi 16, c'est le colloque, et oui. Dimanche 17, c'est le pèlerinage.
D'accord.
Donc c'est quelque chose de jumelé, les deux
D'accord.
choses. Je tiens à ce que l'étude des reliques ne soit pas stérile. Il ne faut pas étudier. Moi, j'ai un peu l'impression, avec Turin, ça tourne en rond, au moins les scientifiques. Alors, quand ils ont trouvé quelque chose, ils veulent trouver encore quelque chose. Mais il faut peut-être un jour se mettre à genoux et dire merci, Seigneur, et l'adorer dans ses propres reliques. Donc, nous, on force un peu les choses dans ce sens. Chaque fois, avec tous nos colloques, il y a le pèlerinage après. Et croyez-moi, les scientifiques, ils viennent humblement avec, et je les ai même vus à genoux. Ceux qui ont dit ici, à Radio Courtoisie, je suis athée, j'aimerais bien avoir la foi. Un petit témoignage.
Oui. Hein? Alors, est-ce que vous pouvez nous dire justement un petit peu qui participe et quels sont les thèmes? Je vois qu'il y a une matinée sur les reliques du Christ en Allemagne.
Oui.
Vous avez un chercheur suisse, n'est-ce pas, qui va parler de la texture
oui.
de la Sainte Robe de Trèves, n'est-ce pas?
Ah, c'est une dame et je pense que tout le monde la connaît parce que c'est elle qui a fait pour le Vatican en 2003 la restauration du linceul de Turin. C'est elle qui a fait ce travail-là. Elle a reçu la commande du Vatican. Elle est protestante, je la connais, elle est en Suisse, et elle est la seule qui a fait une étude scientifique sur la Sainte Robe de Trèves, la fameuse. Hein? Mais c'est elle aussi qui a révélé le désastre, c'est-à-dire il reste presque rien. Il reste quelques restes de laine au fond d'une troisième, quatrième couche d'un reliquaire en textile, mais ce n'est plus utilisable pour la science. Oui, donc sur Trèves, on n'a pratiquement rien de scientifique. Une page dans un gros livre de 300 pages, mais tout est historique, liturgique, etc. Mais scientifiquement, on est bien en avance en Argenteuil. Hein.
Ah, voilà.
Oui.
Alors justement, faisons peut-être une petite pause. Argenteuil, je sais que avant d'aller à Prüm, vous serez, vous, à Argenteuil. C'est à quelle date? C'est traditionnellement, chaque
voilà.
année, vous avez un pèlerinage. Je ne sais quand cette année.
Normalement, on le fait toujours 2 semaines avant Pâques. Mais comme 2 semaines avant Pâques, on est à Prüm, on le fera cette année 3 semaines avant Pâques. C'est le dimanche l'étaré. Alors ça, c'est le 10 mars 2013, le pèlerinage à Argenteuil. D'accord?
Oui.
Avec 15 heures, comme toujours, procession par la ville, accueil à la basilique. J'ai eu l'accord hier définitif pour la date. Donc, vous pouvez noter, si vous voulez, chers auditeurs, c'est le 10 mars, 15 heures, à Argenteuil, jusqu'à 17h, 17h30, avec le chemin de croix dans la basilique et la vénération des reliques de la tunique.
Alors, on va donner les coordonnées de votre association. Donc, COSTA, C-O-S-T-A, c'est boîte postale 70-114, et vous êtes à Saint-Gratien. Le code postal, c'est 95-210 Saint-Gratien. Il y a là un téléphone qui est aussi un télécopieur.
Fax, oui.
C'est 01-34 12 02 68, 01 34 12 02 68, et vous avez une adresse électronique, unec@joinadou.fr. Et donc là, si on vous écrit, si on vous téléphone, on a tous les renseignements.
Oui.
Il n'y a pas besoin de s'inscrire pour aller au pèlerinage à Argenteuil.
C'est à 5 km de Paris.
C'est très facile.
C'est pratiquement une relique de Paris. Hein.
Oui.
D'ailleurs, le nouveau prêtre, le curé de la basilique d'Argenteuil, il est extrêmement accueillant. Il nous accueille chaque fois en haut de l'escalier, directement à l'entrée de la basilique, en nous disant la bienvenue. On a de très bonnes relations maintenant avec lui. Et il veut aller plus loin. Il veut un peu jumeler les grandes reliques du Christ en France, c'est-à-dire la couronne d'épines à Notre-Dame et la Sainte Tunique d'Argenteuil, peut-être par des pèlerinages, un prospectus jumelé, vous voyez. Donc je suis très heureux de cette évolution.
Ouais. Ce qui n'était pas le cas au tout début. Parce
non,
est,
pas toujours.
On peut dire qu'elle était enfouie, cette relique.
Elle était perdue, elle était inconnue, oui, inconnue, même à Argenteuil. C'est toujours dans l'emblème d'Argenteuil, non? Même au temps des communistes, il y avait toujours la Sainte Tunique quand même. Et maintenant, la municipalité le maintient. C'est dans un petit coin, mais elle est toujours là.
Ah, voilà.
La Sainte Tunique d'Argenteuil.
Alors, je reviens une seconde à Prums. J'imagine déjà, avant même de voir le programme que nous avons commencé là de voir ensemble, si des Parisiens, si des auditeurs de Radio Courtoisie en France veulent se rendre, est-ce que vous organisez quelque chose ou il faut se débrouiller?
Alors, on a un autocar. C'est un prix vraiment 220 €, tout compris. Le car, les deux nuits d'hôtel, tous les repas, l'entrée au colloque, enfin l'assurance, etc. 220 €, départ devant la mutualité, ou certains disent devant Saint-Nicolas du Chardonnay, ce qui revient au même, à 14h le 15 mars, et retour au même endroit, 21h le dimanche, deux jours plus tard, dimanche. Donc on a vraiment le programme complet, ça c'est uniquement pour les Français. Mmh. Les Allemands, ils s'organisent de leur côté, ils viennent en voiture, etc. Là,
mais
y a
je
pas
crois
de...
qu'il y a des Français qui vont s'inscrire, hein, ils sont alléchés.
Mais j'en vois déjà dans ce studio, oui. N'est-ce pas, Fabienne Auclair?
Absolument, ça, je crois qu'on va s'inscrire rapidement.
Alors, dites-nous un petit peu, justement, vous avez parlé tout à l'heure, à mot couvert, de quelqu'un qui a été reçu à Radio Courtoisie, c'est Gérard Lucotte, qui sera là comme chercheur français, lui qui parlera des reliques des sandales, justement à Prüm, ses investigations depuis 2007. Je vois, alors je n'ose pas dire, mais pour la France aussi, je vois un certain Winfried Würmeling qui parlera de la Sainte Tunique d'Argenteuil. Mais comme je le dis chaque fois, vous êtes pour moi le plus français des Allemands et le plus allemand des Français. Mais
vous savez, là-bas, il faut avoir le courage parce qu'à Trèves, ils nous ont dit Argenteuil, ici, c'est un mauvais mot. On m'a dit cette phrase-là. C'était un délégué de l'évêque qui nous a expliqué l'histoire de la Sainte-Robe de Trèves. J'ai dit, mais nous, on vient déjà la troisième fois en pèlerinage à la Sainte-Robe. Quand est-ce que vous venez chez nous à la Sainte-Tunique d'Argenteuil? Il a dit, monsieur Würmeling, ici, Argenteuil, c'est un mauvais mot. Vous voyez, les Allemands, quand ils ont quelque chose, ils y tiennent. Enfin, nous, on est vraiment objectifs. On a toute une conférence sur Trèves, donc de madame Flori Lemberg que j'ai expliqué tout à l'heure. En plus, on aura donc Michael Heisemann, un excellent journaliste allemand qui écrit dans les journaux du Vatican, qui nous a fait l'honneur aussi de parler de notre dernier congrès à Argenteuil. Il parlera de Linceul de Turin, témoin de la passion et de la résurrection du Christ. Parce qu'il y a l'arrière du Linceul de Turin qui révèle aussi une image de la sainte face du Christ. Ce qui est absolument révolutionnaire, c'est tout à fait nouveau, et ce qui met par terre toutes les théories qui ont été développées jusqu'à présent sur l'image, sur cette fameuse image du Christ. Tout est par terre, parce que comment peut-on avoir une image devant et derrière aussi? Et en plus, l'image derrière est un peu différente. Ça c'est l'humour du Christ, hein, qui dit, bon, vous avez bien travaillé pendant 100 ans, maintenant vous avez un peu pour les 100 ans à venir. C'est vraiment ça.
Alors, pour ceux qui voudront donc justement étudier l'humour du Christ avec Winfried Wermeling, Guylaine, vous voulez nous rappeler un petit peu les conditions pratiques?
Alors, inscription auprès de Costa Unec, boîte postale 70-114, 95-210, Saint-Gratien. Téléphone fax 01-34-12-02-68. Ou encore une adresse courriel unec@wanadoo.fr. Le forfait autocar, hôtel, repas, entrée pour le congrès, pour ce colloque, est de 220 euros.
Ouais.
Plus 13 euros si on souhaite avoir une chambre individuelle.
Ouais.
Le départ est le 15 mars. Rendez-vous à 14 heures devant la mutualité Paris 5e. Retour au même endroit le 17 mars à 21 heures. Donc, pour assister au colloque sur les reliques du Christ en Europe chrétienne, qui se tiendra à Prume, et suivi du pèlerinage à la relique des sandales du Christ à Prume, avec une messe à 10h30 le dimanche 17 mars et un chemin de croix à 14h.
C'est-à-dire la messe, je crois que c'est la première fois qu'on fait quelque chose avec nos cercles où l'on donne la possibilité d'une messe ordinaire et d'une messe extraordinaire. C'est-à-dire le curé, il a tenu à sa messe naturellement paroissiale dans sa basilique. J'ai dit, mais c'est formidable, comme ça nous on reste dans le grand hall des Carolingiens et on fait notre messe à nous le lendemain. J'ai dit, bon, ça, si vous voulez. Donc maintenant, je suis dans la position de vous annoncer, vous avez le choix. Les pèlerins ordinaires, non, pardon, pour la messe ordinaire, vous allez dans la basilique de la Sainte Sandale, avec accueil des pèlerins, etc. Et même certains prêtres qui parlent comme conférenciers, qui vont concélébrer avec la messe dans la basilique. Et nous, à la même minute, on commence une messe grégorienne, avec le chant grégorien, avec un prêtre de la fraternité Saint-Pédis, dans le hall des Carolingiens de Prume, le même hall où il y avait les conférences la veille. Et on maintient quoi la location et on aura donc les deux messes. Et ensuite, en procession à travers la ville, avec la mairesse qui nous a dit qu'elle veut venir, Madame Veinandi, vers la basilique, entrer dans la basilique, chemin de croix, le programme comme à Argenteuil, chemin de croix et vénération de la relique des sandales du Christ. C'est une belle occasion pour découvrir la richesse des reliques du Christ que je considère comme le fondement de l'Europe. Si le pape dit il faut retrouver les valeurs de l'Europe chrétienne, voilà un pas vraiment constitutif pour le faire.
Et auparavant, donc, on peut se rendre à Argenteuil, donc c'est-à-dire 8 jours avant, voilà, pour bien se préparer un petit peu d'avance cette année à la Semaine Sainte, parce que Pâques, ça très tôt cette année.
Un double pèlerinage.
Voilà. Voilà.
Pâques est juste
dimanche 10 mars. Alors. Rendez-vous le dimanche 10 mars à Argenteuil.
Voilà. Et là, ça commence en début d'après-midi, n'est-ce pas, à 15h.
Ouais.
Très, très bien. Je vais vous demander aussi, alors, Yann, de nous rappeler les coordonnées de l'association et du bulletin mission. Et je poserai d'ailleurs une question indiscrète ensuite à sa rédactrice en chef.
Alors, mission.
Question indiscrète d'un prêtre, je ne me confesse pas ce soir devant tout le monde et les auditeurs, non.
Allez voir.
Donc, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, mission s'écrit au pluriel, 6 Parc de la Bérangère, 92 210 Saint-Cloud. Vous avez également une adresse courriel, mission au pluriel, .assoc, A2SOC. @gmail.com.
Alors, la question qui n'est pas indiquée du tout, c'est, entendu que ce bulletin est inestimable, qui n'a pas de prix, mais on peut peut-être verser une petite cotisation, une adhésion, je ne sais pas, qu'est-ce que...
Ce bulletin est fait pour aider les missionnaires. Alors, si vous n'avez pas compris qu'il faut les aider, ben écoutez, essayez d'imaginer tout le travail qu'ils font, c'est tout. Et puis, ce sont des missionnaires. Ils n'ont pas de moyens, ils comptent sur vous. Et il n'y a pas d'autre moyen, ben il faut les aider. Bon.
Voilà. Et alors, l'autre question, est-ce qu'en avant-première, est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous avez avoir votre prochain numéro en janvier-février, est-ce que vous savez déjà un petit peu quel sujet vous allez traiter, ou est-ce que vous avez des documents, est-ce que ces missionnaires, justement, vous donnent un peu un retour sur le... sur l'aide que vous apportez?
L'abbé Stéline qui nous a écrit il n'y a pas longtemps. L'abbé Stéline, il me fait penser à l'abbé Liberman. Je ne sais pas si vous avez... C'est lui qui a fondé les Spiritains, dont est sorti Monseigneur Lefebvre, ça vous le savez, monsieur l'abbé. Mais bon, il est d'une humilité tellement profonde, il nous raconte tout ce qu'il fait, il est absolument extraordinaire. Et alors, il n'arrête pas, il est toujours en train de se battre la coulpe. Alors, c'est absolument merveilleux, donc je vous donnerai quand même... je vous dirai ce qui nous raconte de sa mission et de tous les et toutes les grâces qu'envoie la Sainte Vierge. C'est absolument extraordinaire. Voilà. Et les grâces, j'en parlerai dans mon prochain bulletin parce que faudrait quand même comprendre que en ce moment, qu'il y a quand même si les promesses de Fatima sont petit à petit en train de se réaliser. C'est lent, mais ça va venir. Parce qu'à la fraternité, on y croit et nos missionnaires, justement, font tout pour ça.
C'est bien. Je crois qu'il y a un message, Guylaine, à lire.
Félicitations pour la qualité et la beauté de votre émission. Quel bien vous nous apportez.
Eh bien, je tiens à partager cela avec nos invités, Winfried Vermeulen et Fabienne Monclar. Et puis dire aussi que le bulletin mission est un bulletin de grande qualité parce que, si j'ose dire, il dispense de lire beaucoup de choses parce que vous faites une synthèse remarquable.
Fan de Chesterton, alors c'est pas difficile. Alors l'humour du Christ, hein, le Chesterton, il apprécierait beaucoup.
Et alors, on vous voit effectivement, vous avez lu beaucoup de choses, vous faites une synthèse et on se dit, bon voilà, on n'a pas besoin de lire ça et ça. Vous avez lu pour nous et vous le résumez de façon efficace.
C'est vrai que la dernière fois, j'ai même lu Le Monde. Ça vous évite de lire.
Ah oui, c'est sûr. Exactement. Non, c'est une très bonne... bonne revue de presse, et c'est de façon incisive, c'était très, très bon, aigu.
Je vous remercie.
Oui, Hélène. Pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui souhaiteraient aider un prêtre en leur demandant des messes, en leur donnant des intentions de messe, ils peuvent donc s'adresser à eux pour confier ces intentions de messe. Et je rappelle que les honoraires d'une messe s'élèvent à 17 euros.
Très, très bien. Eh bien, merci infiniment. Hélène. Donc, je vous souhaite et à la mission et à l'UNEC une sainte année 2013. Elle m'a l'air bien commencée parce que je crois que vous avez beaucoup, beaucoup d'activités en projet et des activités enthousiasmantes. C'est cela qui est merveilleux.
C'est enthousiasmant, oui, ça on peut le dire parce que nos missionnaires sont enthousiasmants. Ils sont en train de réaliser une sainte année, ils vont la réaliser.
C'est bien. Thank you.